Explorer des idées, aller à la recherche de perspectives engagées, c'est l'invitation que vous fait En Dialogue, le balado de la revue Relations. À chacune de ses parutions, place à des rencontres stimulantes et originales avec deux invités qui croisent les regards en lien avec la parution de nos dossiers thématiques. Je m'appelle Élisabeth Garand, je suis directrice du Centre Justice et Foi et de la revue Relations, ainsi que membre de son comité de rédaction. Je vous souhaite la bienvenue de la part de toute l'équipe de Relations. Une vague de dénonciations d'agressions sexuelles et de violences de genre déferle depuis plusieurs années au Québec comme ailleurs. Du mouvement « Moi aussi » au scandale touchant l'Église catholique, en passant par les luttes contre les féminicides, les interpellations à oser dire collectivement « plus jamais ça » sont nombreuses et des réponses adéquates doivent y être apportées le plus rapidement possible. Pour prolonger les réflexions développées dans le dossier du printemps 2022 de la revue Relations, qui a pour titre « Violence sexuelle, faire corps contre le pouvoir », nous avons invité deux personnes au parcours complémentaire afin de nous aider à mieux comprendre les réalités multiples que recouvre le terme des violences sexuelles. Je suis heureuse d'accueillir Frédéric Barriot comme premier invité. Frédéric, vous êtes responsable de la recherche au Centre Justice et Foi depuis 5 ans. Vous êtes historien de formation et spécialiste de l'histoire de l'Église catholique. Votre plume est de plus en plus présente et appréciée dans les pages de la revue Relations, pour laquelle vous êtes aussi membre du comité de rédaction. Vous avez collaboré étroitement avec l'équipe éditoriale de la revue dans l'élaboration du dossier sur les violences sexuelles et vous avez notamment rédigé le premier article du dossier « Affronter le mal qui ronge l'Église ». Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Frédéric Barriot, vous suivez depuis de nombreuses années l'enjeu des abus sexuels dans l'Église catholique, que plusieurs qualifient de fléau. Comment prendre la mesure de ces agressions? Et pourriez-vous faire pour nous un rappel des étapes d'émergence dans l'espace public de cette réalité qui a été trop longtemps taboue et cachée?
Évidemment, les chiffres eux-mêmes donnent le vertige. Je veux vraiment focaliser sur ce qui est plus près de nous, c'est-à-dire la commission Sauvé. On parle de 216 000 victimes. On parle de 3 000 agresseurs. Sur une période quand même de 70 ans, je pourrais aller à la Royal Commission en Australie. On pourrait vraiment étaler comme ça les statistiques. Au fond, ça donne vraiment l'envergure. Et le cas de l'Australie quand même particulier. 62 % vraiment des agressions ont été perpétrés dans des institutions qui sont catholiques. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, un nœud fondamental ici, c'est se mettre à l'écoute de la voix des victimes. Je pense que c'est ça aussi la clé, l'une des clés. Hein. L'Association des victimes en France porte un nom qui est fantastique à mon sens, qui est très révélateur, la parole libérée. Donc, cette libération de la parole dans l'espace public, les enquêtes journalistiques, évidemment, on pense ici à Spotlight du Globe notamment, du Boston Globe, mais aussi donc des enquêtes policières et aussi des commissions d'enquête publique qui ont justement exposé vraiment au visage du public vraiment cet enjeu.
Quel rôle pouvons-nous attribuer au pontificat du pape François dans cette reconnaissance, bien que très, je dirais même trop tardive, de l'ampleur du phénomène dans l'Église catholique, et peut-être aussi son rôle dans l'effort de faire la lumière sur les complicités internes dans l'Église qui ont nui à une réponse adéquate aux dénonciations pourtant nombreuses dans les dernières décennies?
Je pense qu'il faut situer vraiment ce pontificat-là dans ce qui l'a précédé. Rappelons-nous la renonciation donc du pape Benoît XVI, donc parce qu'il était tout simplement incapable, mais parce qu'il n'arrivait pas justement à y faire face. Il y a eu évidemment l'affaire irlandaise. Il y a eu aussi donc les premiers travaux donc la commission de vérité de réconciliation à ce moment-là et n'arrivait pas tout simplement pas à faire face. J'oserais même dire faire acte de contrition, reconnaître les faits. Donc on sentait quand même beaucoup de résistance et de réserve. Donc, le pape actuel est élu dans ce contexte-là lors du conclave de 2013 et d'entrée de jeu, je pense qu'il envoie un signal quand même assez clair. Là, dès 2014, en créant la Commission pour la protection des mineurs, qui va confier par ailleurs au cardinal archevêque de Boston, qui avait quand même dû faire lui-même le ménage chez lui. Donc, déjà, je pense qu'il y a quelque chose qu'on est approché aussi, une représentante bien connue des victimes, Mary Collins, dans l'Irlandaise Mary Collins. Je pense que ça envoyait quand même un signal. Malgré cela, et je l'évoque dans l'article, ça lui a pris quand même encore beaucoup, 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 beaucoup de temps vraiment avant d'en prendre de toute la mesure, et je dirais même de lui-même faire une contrition, je dirais que je qualifierais de sincère. On se souviendra de son voyage apostolique au Chili, par exemple, où il qualifiait littéralement le porte-parole des victimes de menteur, là, donc il défendait bec et ongles à ce moment-là, donc l'évêque Juan Barros, et donc qui avait lui-même couvert un abuseur notoire, le père Caradima. Donc vraiment, il se passe quelque chose en 2018, ce voyage-là qui était vraiment une catastrophe, mais aussi donc le dépôt du rapport du grand jury donc de Pennsylvanie, qui a été aussi un électrochoc. On se souviendra de sa fameuse lettre au peuple de Dieu, où vraiment il y a un appel, où il nomme enfin de manière explicite le cléricalisme, qui est vraiment la clé vraiment de l'enjeu, et plus fondamentalement donc une urgence, une convocation d'urgence de tous les présidents des conférences épiscopales de la catholicité. Donc je pense qu'il y a une accélération à partir de ce moment-là de la prise en compte institutionnelle jusqu'aux plus hauts échelons.
Il y a aussi eu au cours des dernières années une multiplication de recherches, d'audits, d'enquêtes à différents paliers de pouvoir dans l'Église et même des commissions indépendantes. Des demandes d'enquête publique sont faites dans plusieurs pays du monde. À la lumière de ces démarches, pourrions-nous penser qu'il faut lancer au Québec une commission spéciale sur les abus sexuels en Église?
Je pense que oui. Évidemment, ça suppose de composer avec ce mot qui fait peur dans certains cercles, c'est-à-dire celui de systémique. Hein. Le rapport Sauvé est assez, on ne peut plus clair là-dessus, il y a un caractère systémique, donc évidemment, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Il y a évidemment une tradition juridique, il y a quand même plusieurs recours collectifs, il y a quand même une jurisprudence qui est accumulée, qui permet quand même d'avoir une idée. Mais il n'empêche que pour avoir une vision vraiment beaucoup plus exhaustive, il m'apparaît vraiment donc essentiel d'avoir une enquête publique, a fortiori parce que ça va aussi donner les outils aux décideurs ecclésiastiques, mais aussi aux personnes qui suivent ces dossiers de près, vraiment d'avoir une vision, je dirais, d'ensemble. Et le souhait, évidemment, le plus fondamental, et pour le chrétien et pour le père de jeunes enfants que je suis, c'est vraiment d'extirper à sa racine même cette perversion vraiment qui se perpétue, et surtout vraiment cette culture du silence et cette culture du tabou avec lesquelles vraiment il faut en finir.
Outre les sévices physiques sur des mineurs, on a aussi levé le voile plus récemment sur les abus à l'encontre des religieuses au sein des institutions qui ne sont pas sans lien avec le sort réservé en général aux femmes dans l'Église catholique. En tant qu'homme, croyant, laïque, quelle réflexion vous semble nécessaire sur ces rapports de pouvoir?
Les femmes, les ouvrières de l'Église, hein, donc ont longtemps et continuent de l'être par ailleurs à bien des égards, donc dans une position vraiment, je dirais, de dépendance à l'égard de l'institution, donc dans des rapports de pouvoir vraiment qui les maintiennent dans des situations vraiment d'infériorité. Donc je crois que c'est extrêmement révélateur, donc ce rapport au corps et ce rapport au pouvoir, littéralement cet entitlement, hein, c'est culture vraiment d'ayant droit, donc chez certains prêtres pervers, hein, qui, non content bien entendu d'avoir ces femmes, souvent des religieuses par ailleurs, mais aussi des laïcs qui les servent de diverses manières, mais vont aussi vraiment pousser vraiment l'odieux jusqu'à abuser du corps donc de ces femmes. Et par ailleurs, ça dit beaucoup de choses justement sur la nature des rapports de pouvoir et sur la quasi-incapacité vraiment de affronter sereinement donc cette culture patriarcale qu'il faut défaire.
Bien, je vous remercie infiniment pour ce prolongement parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles que vous n'abordez pas dans votre article. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Rachel Chagnon comme deuxième invitée. Avocate de formation, Rachel Chagnon, vous êtes professeure au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Vous travaillez actuellement sur la judiciarisation de la violence conjugale, sur le traitement des victimes de violences sexuelles par le système judiciaire. Je vous remercie d'abord de votre apport à la revue Relations avec le texte « Féminicide, un crime spécifique à reconnaître » dans le dossier « Violence sexuelle, faire corps contre le pouvoir ». Nous sommes aussi reconnaissants de vous avoir avec nous et du temps que vous nous consacrez. J'aimerais d'abord que vous nous permettiez de comprendre l'ampleur de la réalité de la violence conjugale au Québec. Évidemment, de façon un peu brève, ce qui est un défi que je vous invite à relever pour nous.
Bien, je vous remercie de me donner la chance de traiter de ce sujet-là. Tout d'abord, pour donner une idée des chiffres, en 2019, au Canada, on évalue qu'il y a plus de 400 000 femmes, 435, 440 000 femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Donc, c'est une population qu'on évalue, on pense qu'il y a à peu près 5 % des femmes qui vont être victimes de violences conjugales. Ce qu'on entend par violences conjugales, c'est vraiment le contrôle coercitif, d'une part, donc le fait de forcer quelqu'un à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, la violence physique, évidemment, la violence psychologique, des différentes techniques qui visent à confiner les gens dans des espaces qu'elles n'ont pas choisis. Donc, tous ces aspects-là le relèvent un peu de la violence conjugale. On considère que c'est un crime qui est largement sous-dénoncé. Donc, ce qui fait que les chiffres que je viens de vous donner sont des chiffres qui demeurent malgré tout approximatifs parce que, tout comme les violences sexuelles, tout comme les violences dans l'Église, on est confronté à des victimes qui n'osent pas parler pour toutes sortes de raisons, parce qu'elles sont dans des rapports de pouvoir avec leur agresseur, parce qu'elles sont dans des relations affectives avec leur agresseur aussi, qui est une chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Donc, c'est un phénomène qui, heureusement, n'est pas trop généralisé, mais il faut pas perdre de vue que, bon, il est sous-dénoncé d'une part, et d'autre part, il n'affecte pas seulement la victime, hein, il affecte aussi souvent tous les proches de la victime. Pensons entre autres aux enfants qui sont souvent les victimes collatérales là, lorsqu'on est sur des questions de violence conjugale. Donc, on parle quand même d'un problème qui a des répercussions qui peuvent s'avérer socialement importantes, même si les nombres déclarés auxquels on a accès encore aujourd'hui demeurent relativement restreint. Là.
L'éveil collectif et même politique qui se manifeste à l'égard du caractère spécifique de la violence contre les femmes est certainement en grande partie redevable à l'engagement tenace depuis très longtemps de groupes féministes et communautaires qui ont porté la voix des femmes abusées et violentées. Mais il semble que le point tournant était l'émergence de mouvements collectifs tels que MeToo, moi aussi. Comment mieux comprendre cette prise en compte collective au Québec et ailleurs? Quel lien y a-t-il entre la culture du viol que dénonce ce mouvement et le féminicide comme violence de genre ou de violence patriarcale?
Bien, on considère que autant ce qu'on a déterminé comme étant la culture du viol, c'est-à-dire un environnement qui rend favorable les agressions envers les femmes en ce qu'il banalise la violence faite aux femmes, érotise certaines formes de violence et tend à déculpabiliser les agresseurs pour renvoyer la culpabilité aux victimes, font corps avec le système patriarcal, qui est un système, selon la vision féministe du terme, là, qui renvoie à l'idée que les sociétés occidentales, par exemple, se sont créées pour les hommes au bénéfice des hommes. Donc, si on regarde la culture du viol et le féminicide, on peut le lire comme étant des manifestations qui visent un peu à garder les femmes dans leur rang. C'est l'expression d'une forme de violence qui vise à faire peur aux femmes, dans une certaine mesure, à rappeler les femmes à leur place. C'est une licence qui est donnée à une minorité d'hommes, il faut le dire, mais qui bénéficie quand même d'une complicité sociale assez importante, qui leur permettent justement de pouvoir utiliser ou user du corps féminin jusque dans son expression la plus finale lorsqu'on est dans le féminicide. Quand on explore ces enjeux-là dans une vision féministe, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment l'expression du système patriarcal qui va tendre vers une prise de contrôle du corps des femmes, que ce soit la prise de contrôle de la sexualité des femmes, ou encore une prise de contrôle du corps des femmes comme telle, puis la vision finale de cette prise de contrôle-là, c'est évidemment le féminicide, puisque c'est là qu'on dispose du corps dans... de façon à ce que pour les femmes, il n'y a plus d'issue. après.
Vous affirmez dans l'article que vous avez écrit pour Relations que le droit n'est pas toujours un bon allié des femmes. Nous aimerions vous entendre un peu plus sur les limites du droit pour traiter adéquatement de cette question. Que pouvons-nous espérer, par exemple, d'une démarche comme le tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales? Quelles sont les limites et est-ce que c'est une voie qui peut nous aider à avancer du point de vue juridique?
Donc, historiquement, le droit, c'était d'abord et avant tout l'outil des personnes qui ont le pouvoir. Donc, quand on est dans une société où un certain groupe d'individus ont le pouvoir, le droit va vraiment être utilisé pour leur permettre de garantir et de pérenniser ce pouvoir-là. Dans une société largement dominée par les hommes, ce qu'on a vu historiquement, c'est un droit qui confinait les femmes dans certains espaces, leur retirait plusieurs de leurs droits. Bon, on a refusé le droit de vote aux femmes pendant des décennies. On a garder les femmes mariées dans un statut de mineure pendant des décennies. Donc, historiquement, le droit était vraiment au service de la société qui le concevait. Ce qu'on assiste maintenant dans le monde contemporain, c'est une prise de pouvoir puis une prise de possession du pouvoir par certains groupes historiquement stigmatisés, dont les femmes. Et cette arrivée-là des femmes dans des positions de pouvoir, dans l'espace public, a amené certaines femmes à envisager le droit non pas comme un outil de répression, mais bien comme un outil d'émancipation. Et on peut voir l'instauration du tribunal spécialisé comme faisant partie de cette vision-là d'un droit qui vise à amener une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Et là, cette fois-ci, c'est pas seulement le droit, mais c'est le système judiciaire qu'on va tenter d'impulser pour qu'il réforme certaines pratiques et tende vers une pratique plus respectueuse, entre autres, des victimes de violence. La question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est jusqu'à où on peut aller dans ce type de système-là, dans la mesure où, à l'origine, il ne faut pas perdre de vue que c'est des systèmes qui n'ont pas été conçus pour accueillir les victimes, qui n'ont pas été conçus pour rendre justice aux femmes. Le niveau d'adaptabilité et de flexibilité de ce système-là auquel il faut réfléchir, parce que même si on essaie de le transformer, ses bases demeurent les mêmes. Et le code criminel qu'on a en ce moment, c'est un code criminel qui a été voté pour la première fois en 1878 et qui, dans sa structure, demeure encore aujourd'hui très peu modifié. Donc, quand on part de ce constat-là, bien, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à où on peut utiliser de manière efficace ces normes-là pour amener une plus grande justice pour les victimes. Puis la prochaine question qu'on pourrait se poser, c'est comment on peut prendre en compte la parole des victimes? Parce qu'une plus grande justice sociale ou une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, c'est aussi donner la parole aux victimes. C'est de renverser un peu le paradigme pour permettre aux victimes de nous dire comment elles veulent qu'on leur fasse justice.
Le mot « féminicide » s'impose de plus en plus pour reconnaître la violence spécifique faite aux femmes parce qu'elles sont femmes. Rappelez-nous l'émergence de cette appellation, sa portée et la possibilité, par cette reconnaissance, d'une meilleure prise en compte, éventuellement même par le droit.
Donc, le mot féminicide, dans son sens contemporain, va apparaître dans les années 60. Puis c'est vraiment les mouvements féministes qui ont porté ce nouveau sens du mot. On voulait faire émerger l'idée que les femmes mouraient parce qu'elles étaient des femmes d'abord et avant tout. Et on voulait aussi renverser la tendance qui était beaucoup de culpabiliser les femmes, de déresponsabiliser les hommes par rapport à ce type de crime-là. Et c'est entre autres les travaux sur la violence conjugale qui vont amener le traitement judiciaire de la violence conjugale, pour être plus spécifique, qui vont amener les féministes à vouloir nommer le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme, parce qu'elle voit toute une série de conséquences par rapport à ça, entre autres dans le traitement des agresseurs qui vont être reçus par le système judiciaire avec une certaine complaisance du fait de ce type de crime-là, qui vont passer vraiment sous le couvert de type de crime passionnel, où là, vraiment, on va à toute fin pratique, indiquer qu'il y avait eu une provocation de la victime. Depuis, par contre, ce qu'on constate, c'est que l'appellation féminicide s'est un peu étoffée, entre autres par le biais de l'ONU, où là, on a vraiment voulu nommer plusieurs typologies de crimes liés au meurtre des femmes, que ce soit les crimes d'honneur, que ce soit des crimes intrafamiliaux. Donc, on est sorti un peu de la relation intime pour essayer de poser un regard sur vraiment tous les phénomènes où on va s'en prendre à une femme parce qu'elle est une femme. Il y a des pays de l'Amérique latine où on a commencé à nommer le féminicide comme étant un crime spécifique pour justement rendre davantage justice aux victimes puis pour faire apparaître ces victimes-là dans l'espace public et aussi pour s'assurer que la peine imposée aux agresseurs soit vraiment représentative de la violence réelle ou de la gravité réelle du crime commis. Au Canada, c'est en réflexion. Il y a différents organismes qui aimeraient qu'on ait un crime de féminicide. Il y a un observatoire sur le féminicide, entre autres, qui réfléchit sur ces questions-là et qui tente de répertorier les féminicides au Canada. Mais parce que, justement, on n'a pas de crime spécifique pour ça, c'est un peu plus difficile d'identifier ce qu'est un féminicide parce qu'il faut être capable de connaître un peu le contexte dans lequel le crime a été commis. Ensuite, bon, il y a toute une discussion là-dessus. Est-ce que ça va vraiment aider à une meilleure justice? Est-ce qu'on risque de reproduire les problèmes qu'on a déjà connus, c'est-à-dire de retrouver un certain système de complaisance? Puis là, en identifiant spécifiquement ces victimes-là, ben, on les transforme en victimes d'un crime, oui, spécifique, mais dont peut-être la gravité ne serait pas reconnue à sa juste valeur. Donc, la discussion a cours. Puis, bon, dans les pays où ça se criminalise, d'autre part, puis je vais terminer là-dessus. Le problème aussi, c'est que, bon, les pays d'Amérique latine, on le fait beaucoup. Par contre, c'est des pays où les inégalités hommes-femmes demeurent extrêmement importantes. Et ce qu'on constate, c'est que pour beaucoup de gouvernements de droite, c'est une façon de se dédouaner de ses obligations à l'égard des femmes. Si on pense à des gouvernements comme le Nicaragua, le Mexique, l'Argentine, où on tend vers la criminalisation du féminicide, on peut pas dire que c'est des gouvernements qui travaillent beaucoup à mettre en place des systèmes vraiment égalitaires entre les hommes et les femmes, par ailleurs.
Merci. Vos apports, Frédéric Barriot, Rachel Chagnon, sont vraiment passionnants. J'aimerais, dans cette prochaine étape, un peu vous mettre en dialogue sur des éléments qui touchent à la fois le milieu religieux, ecclésial, au niveau des abus sexuels, mais aussi sur les autres formes de violence. J'aimerais qu'on regarde un peu ce qui résonne dans ces deux réalités-là de façon semblable. D'abord, la réalité des abus et de la violence sexuelle perpétuée grâce à une culture du silence imposée dans à peu près toutes les institutions sur cette question, qu'il s'agisse de la famille, de l'Église, de l'armée, du milieu artistique, entre autres. Qu'y a-t-il au fondement de ce déni et de cette culture du silence? Qu'est-ce qu'on a essayé pendant si longtemps de protéger? J'irai avec Frédéric Barriot pour commencer.
On essaie de perpétuer finalement certains rapports de pouvoir. On peut réassigner des gens qui essaient justement de remettre en cause cet ordre de pouvoir finalement et cette hiérarchie. C'est intéressant qu'on évoque ici énormément d'institutions qui sont reconnues pour leur hiérarchie par ailleurs. Et j'ajouterais aussi... ce qui est un peu choquant dans tout ça, c'est que ces agresseurs et ces agressions-là étaient de notoriété publique. Donc, il y a eu vraiment pendant très, très, très longtemps une culture de l'acquiescement. Évidemment, le mobile ici, je dirais, c'est cette masculinité toxique d'une certaine manière. Ce qui est en train de changer, à mon sens, c'est qu'il y a une interpellation. Il y a une interpellation et donc les hommes eux-mêmes sont aux premières loges, vraiment, sont interpellés directement pour justement ne plus acquiescer à cette culture-là s'en dissocier fermement et surtout vraiment parler et donc interrompre finalement là ceux qui en sont ceux qui perpétuent justement cette masculinité toxique, parce que la mentalité de boys club autrement va se perpétuer ad nauseam.
Vous, Rachel Chagnon, sur ce sujet.
Mais il y a un modèle fondamental sur lequel tout le reste repose, c'est le modèle de l'autorité paternelle. Puis c'est une construction qui a tellement servi les hommes de tellement de façons, puis entre eux, non seulement pour établir leur rapport de force par rapport à l'ensemble de la création, que ce soit les femmes, les enfants, la nature, au service de l'homme, mais entre eux aussi, il y a toute une hiérarchisation des rapports masculins qui repose repose sur l'idée d'une certaine autorité, de la préséance de l'autorité paternelle, puis toute une structuration pyramidale où l'autorité paternelle est toujours mise en haut. Et dans une structure comme ça, pour que ça fonctionne, pour que les codes marchent, pour que tout le monde soit sur le même, sur la même longueur d'onde, on ne peut pas remettre en question cette autorité paternelle-là. On ne peut pas la déconstruire parce que tout repose là-dessus. Donc, il faut qu'il y ait une certaine complicité. Puis ce qu'on constate, c'est que les agresseurs sont des personnes en position d'autorité, souvent, et c'est le rapport à l'autorité est un élément fondamental, qu'on soit dans l'Église, qu'on soit en matière de féminicide ou de violence conjugale. Il y a un lien quand même qui est vraiment flagrant, c'est cette idée-là que la personne qui use de la violence le fait dans un rapport de pouvoir parce qu'elle veut garder le pouvoir, parce qu'elle veut garder le pouvoir sur les personnes sur lesquelles elle use de violence et qu'elle sait qu'elle ne sera pas punie. Elle sait qu'elle est protégée, qu'il y a un système derrière elle qui reconnaît que son autorité doit être préservée, même si ça doit se faire au détriment des victimes.
D'ailleurs, je continuerai sur la question des victimes que vous avez évoquées l'un et l'autre dans les premières interventions. Les victimes et parfois des alliés qui ont décidé de dénoncer une démarche qui était éminemment difficile. Leurs voix ont longtemps été ignorées, leurs témoignages ont été contestés quand ce n'est pas ridiculisé. Comment le regard sur les violences à partir de la réalité de ces personnes qui en sont victimes, peut-il transformer notre approche de cette question et permettre de trouver des réponses plus adéquates? Peut-être que je commencerai par vous, Rachel. Vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant du système juridique, comment partir de la parole des victimes.
Bien, je trouve que c'est le grand renversement de notre époque, d'entendre les victimes. Puis c'est la démonstration aussi d'un changement social profond parce que ce que ça veut dire, c'est que maintenant, on reconnaît un certain capital social puis un certain capital symbolique aux victimes qu'on ne leur reconnaissait pas avant. Faut pas perdre de vue que souvent, les agresseurs choisissent un peu leurs victimes parce qu'ils vont d'instinct aller vers des personnes qui ne sont pas en position de se défendre, ne seront pas crues, ne seront pas entendues. Là, ce qu'on voit, c'est que, ben justement, avec l'émergence de nouveaux pôles de pouvoir, puis l'émergence dans l'espace public de nouveaux groupes sociaux qui réussissent à se faire entendre, c'est que le statut d'infériorisation que des victimes qui faisaient en sorte qu'on pouvait écarter leurs paroles plus facilement semble s'être fissuré. Puis aujourd'hui, surtout grâce aux réseaux sociaux, les victimes ont trouvé d'autres espaces où elles peuvent s'exprimer, qu'on le veuille ou pas. Et là, tout d'un coup, elles ne sont plus sans voix. Encore une fois, que ce soit dans l'Église ou dans la famille, les victimes sont censées être les personnes qu'on protège. Puis il y a toute cette espèce de mythologie-là de comment les hommes prennent soin des femmes, comment les maris prennent soin de leur épouse, qui font partie de la reconnaissance de l'autorité. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a le pouvoir et l'autorité, c'est parce qu'ils s'en servent pour prendre soin. Et comment on brisait la voix de ces personnes-là alors qu'on est censé justement prendre soin d'elles. En tout cas, maintenant, ce qu'on voit, c'est que les victimes ont appris peut-être à prendre un peu plus soin d'elles-mêmes et que ce qui vient avec, c'est que maintenant, elles arrivent à s'exprimer un peu plus.
Moi, j'abonde tout à fait dans le même sens. Donc, je pense qu'on fait face à un changement de paradigme. Puis on le voit bien, là. Donc, certains la qualifient de nouvelle sensiblerie ou une sensibilité. Mais je pense que écouter cette voix-là, puis j'élargirais là, tout ce qui est affublé à tort ou à raison au mouvement woke, d'être attentif justement aux souffrances des victimes et être attentif justement au poids des mots restitués. Donc, à cette parole des victimes, sa vérité intrinsèque, sa vérité propre, sans gommer, bien entendu, la gentilité, sans gommer, bien entendu, la résilience des victimes, mais déjà de l'entendre, de la dire et de prendre acte de cette parole-là, je pense que c'est une évolution sociétale majeure.
Les réalités d'abus sexuels dans les institutions, notamment ecclésiales, mais aussi pour la violence conjugale, on l'évoquait tout à l'heure, ont des sources communes, dans les rapports de pouvoir patriarcaux. Comment ces rapports de pouvoir se sont-ils construits? Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les sphères religieuses et civiles se sont influencées entre elles pour le maintien de ces pouvoirs et encore jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que ces rapports nous révèlent aussi des modèles de masculinité que nous acceptons ou que même que nous mettons de l'avant? Frédéric Barriot?
Ben, ce qui est intéressant, c'est que bon, on parle du catholicisme romain, mais on pourrait aussi parler du droit romain d'une certaine façon. Il y a vraiment une source commune à la figure du père, la figure du pater familias romain, qui est vraiment maître absolu. C'est ça, il y a une confusion entre la justice canonique, la justice civile et donc le droit criminel. Donc, il y a vraiment littéralement donc une espèce de parallélisme en même temps où justement, l'Église a fonctionné selon son propre code de loi, avec ses propres codes de conduite et, par ailleurs, donc une bonne partie des enjeux qui se sont posés dans les affaires d'abus sexuels, c'est l'idée, bien entendu, que tout peut se régler à l'interne, hein, tout peut se régler par les règles internes de la maison, sans même sentir le besoin ni la nécessité de s'en remettre à ces tribunaux civils qui, pourtant, en la matière et en l'espèce, sont ceux qui peuvent justement imposer des sanctions appropriées.
Ce qui est intéressant quand on regarde la fluidité entre la société civile, entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, puis comment ces deux pouvoirs-là se rejoignent au sommet, se répondent, sont complices l'un de l'autre, ça explique un petit peu. Mais c'est en fait ce qu'on voit si on fait de l'histoire longue, c'est à quel point justement les pouvoirs civils et religieux se sont appuyés les uns sur les autres. Puis quand on s'appuie l'un sur l'autre, on se protège mutuellement, c'est la corollaire. Donc, le pouvoir religieux sert d'assise au pouvoir civil. Bon, pendant toute la monarchie, ça a été particulièrement vrai. Par la suite, ça a quand même été vrai aussi dans les démocraties bourgeoises. Il y a toujours eu cette affinité-là des hommes de pouvoir entre eux. Et je pourrais dire l'espèce d'échange de bons procédés qui en a découlé, c'est que les hommes qui appartenaient au pouvoir religieux, bon, on les a laissés se gérer entre eux, et les hommes du pouvoir religieux, ben, touchaient pas aux hommes du pouvoir civil et les laissaient et leur donnaient plus ou moins la bénédiction sur tout ce qu'ils faisaient, et on se faisait des échanges de bons procédés à ce niveau-là. Et je pense qu'on est tributaire de ça jusqu'à aujourd'hui. En fait, à partir du moment où on peut fonctionner en vase clos, puis qu'il y a une espèce d'entente tacite disant que les autorités ne viendront pas le mettre le nez dans vos affaires, ben on a le droit à toutes les dérives à ce moment-là. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de mesure de contrôle.
Vous êtes tous les deux préoccupés par les nombreuses formes d'abus que subissent aussi les premiers peuples ou les peuples autochtones qui ont longtemps été justifiés par des arguments que nous qualifions aujourd'hui clairement de racistes et de comportements coloniaux. Rachel Chagnon, comment ça se manifeste-t-il dans les nombreuses violences subies par les femmes autochtones allant jusqu'à la disparition et le meurtre?
L'impact du racisme et du colonialisme, c'est de rendre encore moins audible la voix des victimes et de rendre encore moins pertinent le fait de leur rendre justice. Je pense entre autres au cas Picton en Colombie-Britannique, qui est un cas célèbre d'agresseur qui a tué, on pense, à peu près de 15 à 20 femmes. Là, on n'aura jamais le chiffre exact. Et une grande portion de ses victimes étaient des femmes autochtones. Et lui l'a avoué lors de son procès, pour la simple et bonne raison qu'ils savaient que leur crime serait pas puni, puis qu'elles ne seraient pas, qu'on ne les chercherait pas, parce que il y avait un désintérêt de la justice blanche à l'égard de ces femmes-là. Et ça fait de ces femmes-là des victimes toutes désignées, parce que puis des victimes même des autorités policières, parce qu'on a vu des dérives. Bon, la GRC a fait certaines admissions, on a eu des enquêtes ici au Québec où non seulement lorsqu'on s'attaque à elles, on sait que les autorités n'enquêteront pas parce que, bon, c'est pas important ce qui leur arrive, mais ce qu'on constate, c'est que les autorités, certaines autorités, dont les autorités policières, les membres de ces autorités-là, de ces corps policiers-là, eux-mêmes devenaient, se posaient en agresseurs justement parce que il y avait une complaisance et une façon, une déculpabilisation, une déresponsabilisation des agresseurs face à ces victimes-là.
Frédéric Barriot, comment cela se manifeste-t-il pour vous dans le cas des abus d'enfants dans les pensionnats dont nous prenons aujourd'hui une plus juste mesure de l'ampleur?
Je dirais que les abus sexuels et même les abus physiques, les abus de toute nature perpétués dans les pensionnats sont les situés dans une manière un peu plus large, vraiment. C'est l'aboutissement même de la logique vraiment du colonialisme, c'est-à-dire que les corps des enfants, comme les corps des femmes, on l'évoquait un peu plus tôt, deviennent finalement la dimension sacrificielle vraiment de ce colonialisme. Donc, ça a été vraiment une domination vraiment tous azimuts sur la nature et sur le territoire lui-même. Ne restait que ces petits corps d'enfants et ces corps de femmes suppliciés. La loi sur les Indiens, de toute façon, rendait la chose encore plus possible. Donc, c'est le paroxysme. Et d'autant que ça se construit aussi dans le contexte, donc, l'élaboration aussi des identités blanches. Il y a une déshumanisation des premiers peuples, mais aussi des personnes afrodescendantes et aussi des personnes asiatiques. Hein. Le livre de Catherine La Rochelle, L'école du racisme, le démontre. On ne peut mieux, ce qui fait que devant nous, vraiment, devant les yeux de ces potentiels agresseurs, j'ai peine à penser s'ils voyaient même ne serait-ce que l'être humain qui était devant eux. Donc, ils ont vraiment une déshumanisation. Donc, il y a plusieurs niveaux dans une perspective intersectionnelle qui s'ajoute. C'est à ça qu'on est confronté. Je pense que l'article de Brigue Capitaine dans le numéro, justement, le montre on ne peut mieux vraiment. Donc, jusqu'où allait cette déshumanisation?
En terminant, je vous inviterai tous les deux à partager avec nos auditeurs et auditrices ce qui vous fait espérer des changements importants dans les années à venir, décisions, engagements, transformations structurelles que nous devons suivre ou appuyer. Quels sont les leviers dont nous disposons pour que cela ne se répète plus? Frédéric Barriot, d'abord.
Bien, s'agissant de l'Église catholique, évidemment, cette libération de la parole des victimes, c'est quelque chose qui me remplit quand même d'espérance. Je vois aussi quand même un certain potentiel du côté de la justice réparatrice. Il y a des avenues, c'est quand même de plus en plus promu comme une espèce de voie vraiment d'avenir pour entendre, mais aussi être transformé en tant qu'institution, en tant que personne. Donc, et surtout, les écouter, ces témoignages-là, ce que trop peu de personnes font, il y a vraiment une transformation intérieure qui se transforme aussi en transformation institutionnelle, justement, qui rééquilibre, qui redynamise, qui recrée des nouvelles dynamiques, de nouveaux rapports de pouvoir. Et la démarche, les démarches synodales qu'on observe un peu partout dans l'Église catholique, cette libération de la parole, cette écoute de la parole, cette écoute des uns des autres, j'ose espérer que s'agissant de ce qui nous intéresse ici, va vraiment vraiment revenir vers davantage d'horizons. Ce qui était par ailleurs l'esprit même du Concile Vatican II et qui est porteur, à mon sens, là, d'espoir et d'espérance de mon côté.
Bien, moi, mon espoir, c'est quand je vois nos jeunes adultes d'aujourd'hui. Je trouve que dans les nouveaux modèles de masculinité qui sont valorisés chez les jeunes, le mouvement woke, que moi, avec tout ce qu'il a de bon et d'un peu plus problématique, mais cette idée-là de l'empathie, de faire de l'empathie une qualité, c'est quand même extraordinaire, puis de voir des relations qui s'établissent de façon beaucoup plus équilibrée. Les exemples que j'ai, c'est évidemment, je suis prof d'université, ce que je vois autour de moi, c'est mes étudiantes, puis ce que je vois, c'est des relations interpersonnelles beaucoup plus basées sur un rapport de reconnaissance et d'admiration mutuelle, des modèles de féminité et de masculinité qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup moins stéréotypés qu'ils l'étaient auparavant. Puis je pense que dans ce nouveau modèle-là, c'est la clé du succès, parce que dans une société plus respectueuse des voix de tous et chacun, puis dans une société où on entend la souffrance des autres, où on a plus d'empathie à l'égard de la souffrance et à l'égard de tout ce qui concerne la victimisation, c'est clair que notre capacité à faire preuve de tolérance à l'égard de l'agression a déjà commencé à changer. Puis je pense que la clé du succès ou en fait d'une vie meilleure, moins violente, se trouve là-dedans beaucoup.
Chers auditeurs, chères auditrices, c'est le moment de conclure l'épisode d'aujourd'hui. Nous vous invitons à consulter le site web de la revue Relations pour écouter ou réécouter ce balado, ainsi que les autres épisodes de la série En dialogue. Merci beaucoup à nos invités, Frédéric Barriot et Rachel Chagnon. Vous avez été très éclairants dans un sujet qui est difficile, qui doit vraiment nous préoccuper. Vous nous avez apporté à la fois beaucoup d'éléments factuels utiles, mais aussi des réflexions sur le plus long terme et quelques lumières d'espoir aussi. Je remercie toute l'équipe de Relations pour la création de ce balado et pour la production du numéro dans lequel il s'inscrit. Toute ma reconnaissance à Myriam Cloutier et Emiliano Arpin-Simonetti pour l'aide au contenu, à Julien Simard pour la prise de son, le thème musical, l'environnement sonore et le montage, et à Sandrine Corbeil pour l'identité visuelle. Enfin, merci à chacun et chacune de vous, chers auditeurs et auditrices, qui avez pris le temps de nous écouter.